Chapitre 24. Tin. Forme de décomposition au goût amer, forme divine à tenir au loin. Ne l'écoutez pas, ne la cherchez point. Que vous parcouriez colline ou rivière, prenez garde où vous portent vos pas. Chérissez vos peurs, défiez-la. Extrait du chant des secrets de ceux qui écoutent. 27e couplet.
Eh bien, vous voyez,
déclara Gaz tout en ponçant le bois du chariot de Chalanne. Elle était assise près de lui et l'écoutait tout en travaillant.
La plupart d'entre nous ont rejoint les combats des plaines brisées pour la vengeance. Vous comprenez? Ces faces marbrées ont tué le roi. C'était censé être un truc grandiose et tout. Un combat pour la vengeance, une manière de montrer au monde que les Aletti ne tolèrent pas la trahison.
Ouais,
acquiesça Red. Le soldat barbu et dégingandé dégagea l'un des barreaux du chariot de Chalanne. Une fois celui-là retiré, il n'en restait que trois de chaque côté pour soutenir le toit. Il le laissa tomber d'un air satisfait, puis épousta ses gants de travail. Voilà qui contribuerait à transformer le chariot, d'une simple cage roulante, en véhicule plus approprié pour une dame Palyris.
« Je m'en souviens !»
poursuivit Red en s'asseyant dans le fond, les jambes pendues dans le vide.
« L'appel aux armes nous est venu du haut prince Vama, en personne. Et il s'est répandu à travers toute Longue-Rive, comme une odeur pestilentielle. La moitié des hommes en âge de se battre ont rejoint la cause. Quand vous alliez boire un verre sans porter votre insigne de recrue, les gens se demandaient si vous étiez un lâche. Je me suis engagé avec 5 copains. Ils sont tous morts maintenant. Ils pourrissent dans ces gouffres maudits des foudres. »
« Alors, vous en avez simplement eu assez de vous battre ?» demanda Chalanne.
Elle disposait désormais d'un bureau. Enfin, d'une table. Un petit meuble de travail facile à démonter. Il l'avait sorti du chariot et elle s'en servait pour parcourir quelques-unes des notes de Jasna. La caravane s'installait tandis que le jour déclinait. Ils avaient bien voyagé aujourd'hui, mais Chalanne ne les forçait pas trop, après ce qu'ils avaient tous subi. 4 jours après avoir débuté leur voyage, ils approchaient de la section du couloir où les attaques de bandits étaient beaucoup moins probables. Ils n'étaient plus très éloignés des plaines brisées et de la sécurité qu'elles offraient.
« Assez de nous battre !»
répéta Gaz en gloussant de rire, tandis qu'il s'emparait d'une charnière et commençait à la clouer en place. De temps à autre, il lança un coup d'œil sur le côté, une sorte de tic nerveux.
« Certainement pas, ce n'était pas nous. C'était ces rafales de Palsiris, sans vouloir vous offenser, Clarissime. Mais qu'ils aillent aux foudres et qu'ils n'en reviennent jamais.
« Ils ont arrêté de se battre pour gagner, »
ajouta Red tout bas.
« Et ils se sont mis à se battre pour les sphères. »
« Chaque jour, » répondit Gaz, « chaque jour, » Sainte Bourrasque, on se levait pour se battre sur ces plateaux sans jamais progresser. Qui s'en souciait qu'on progresse? Les hauts princes n'en avaient qu'après les cœurs de gemmes. Et nous, on était là, quasi réduits en esclavage par nos serments militaires. Pas le droit de voyager comme les bons citoyens devraient y être autorisés, puisqu'on s'était engagés. On mourait, on saignait, on souffrait pour qu'ils puissent s'enrichir. C'était tout. Alors on est parti. On était une poignée à boire ensemble, même si on servait différent aux princes. On les a laissés derrière nous ainsi que leur guerre.
Attends, Gaz,
le reprit Red.
Ce n'est pas tout. Sois honnête avec la dame. Tu n'avais pas aussi quelques dettes en attente? Qu'est-ce que tu nous avais dit sur le fait d'être à deux doigts de nous voir transformés en hommes de pont?
Hé là, répondit Gaz, c'est mon ancienne vie. Et y a rien dans cette ancienne vie qui ait encore de l'importance. »
Il termina avec le marteau.
« Et puis la clarissime Chalanne a dit qu'on s'occuperait de nos dettes. »«
Tout sera pardonné, » confirma Chalanne.
« Tu vois ?»«
À part votre haleine, »
ajouta-t-elle. Gaz leva les yeux, le rouge montant sur son visage couvert de cicatrices. Mais Red se contenta d'éclater de rire. Au bout d'un moment, Gaz céda au rire à son tour. Il y avait quelque chose de désespérément affable chez ces soldats. Ils avaient saisi l'occasion de retrouver une vie normale et comptaient bien s'y accrocher. Ils n'avaient pas posé le moindre problème de discipline lors des jours qu'ils avaient passés ensemble. Et ils lui rendaient service avec un réel empressement. Elle en eut la preuve lorsque Gaz releva l'un des côtés de son chariot, puis souleva un loquet et baissa une petite fenêtre pour laisser entrer la lumière. Il désigna sa nouvelle fenêtre en souriant.
Peut-être pas assez luxueuse pour convenir à une dame paliris, mais au moins, vous pourrez voir à l'extérieur.
Pas mal,
commenta Red, qui applaudit lentement.
Pourquoi tu ne nous avais pas dit que tu avais une formation de menuisier ?
Je n'ai pas été formé,
répondit Gaz, dont l'expression s'assombrit soudain.
J'ai passé un peu de temps dans un dépôt de bois, c'est tout. On apprend quelques trucs.
C'est très joli, Gaz, lui dit Shallan. Je vous en suis très reconnaissante.
Ce n'est rien du tout. Vous devriez avoir une charnière de l'autre côté aussi. Je vais voir si je peux en récupérer une auprès des commerçants. On lèche déjà les bottes de notre nouvelle maîtresse, Gaz ?
Demanda Vatat en rejoignant le groupe. Shallan ne l'avait pas entendu approcher. Le chef des anciens déserteurs tenait un petit bol de curry fumant provenant du chaudron du dîner. Shallan percevait l'odeur épicée des piments. Voilà qu'il aurait agréablement changé du ragoût qu'elle mangeait avec les marchands d'esclaves, mais la caravane disposait de nourriture adaptée aux femmes, qu'elle était donc obligée de manger. Peut-être parviendrait-elle à voler discrètement une bouchée de curry quand personne ne la verrait.
« Gaz, vous ne m'avez jamais proposé de fabriquer ce genre de choses »,
observa Vatat, qui plongea son pain dans la sauce et en arracha un morceau à l'aide de ses dents. Il continua à parler tout en mâchant.
« Vous paraissez heureux d'être redevenu l'esclave des Palsiris. C'est un miracle que vous n'ayez pas déchiré votre chemise à force de ramper comme vous venez de le faire. »
Gaz rougit de nouveau. « Pour autant que je le sache, Vatat, lui dit Shallan, vous n'aviez pas de chariot. Donc où auriez-vous voulu que Gaz vous fabrique une fenêtre ? Dans votre tête, peut-être ? Je suis sûre qu'on peut arranger ça. »
Vatat sourit tout en mangeant. Quoique ce ne soit pas un sourire particulièrement aimable.
Vous a-t-il parlé de l'argent qu'il possède ?
Nous nous occuperons de ce problème-là le moment venu.
Cette bande-là va vous poser plus de problèmes que vous ne le pensez, petite Paliris,
rétorqua Vatat, qui secoua la tête et replongea son pain dans la sauce.
Ils vont retourner tout droit à ce qu'ils étaient.
Cette fois, ils seront des héros pour m'avoir secouru. Il ricana.
Ces gars-là ne seront jamais des héros. Ils ne sont que du crémon clarissime, rien de plus.
Près de lui, Gaz baissa les yeux et Red détourna le regard. Mais aucun des deux ne le contredit.
Vous faites de gros efforts pour les décourager, Vatat, fit observer Shallan en se levant. Avez-vous tellement peur de vous tromper? On pourrait croire que vous y seriez habitué désormais.
Faites attention, fillette, gronda-t-il. Vous feriez mieux de ne pas insulter un homme par accident.
La dernière chose au monde dont j'ai envie, c'est de vous insulter par accident, Vatat,
répliqua Shallan,
comme si j'étais incapable de le faire volontairement.
Il la regarda, puis rougit, et prit un moment pour méditer une réplique. Avant qu'il puisse le faire, elle reprit.
Et puis je ne suis pas surprise que vous ne trouviez pas vos mots, car ça aussi, vous devez y être habitué. Vous devez ressentir ça à chaque fois que quelqu'un vous pose une question compliquée, comme la couleur de votre chemise.
« Joli, » répondit-il. « Mais vos paroles ne vont pas transformer ces hommes ni le pétrin dans lequel ils se sont fourrés. »«
Bien au contraire, » répliqua Shallan en soutenant son regard. « Dans mon expérience, c'est par la parole que s'amorce la plupart des changements. Je leur ai promis une seconde chance et je compte bien respecter cette promesse. »
Vatat émit un grognement, mais s'éloigna sans plus de commentaires. Shallan soupira, s'assit et se remit au travail.
Celui-là, il a toujours la mine de quelqu'un dont un démon des gouffres a dévoré la mer,
commenta-t-elle avec une grimace. À moins que ce démon des gouffres ne soit sa mère. Red éclata de rire.
Si je puis me permettre, Clarissime, vous avez la langue bien pendue.
Tant qu'elle ne le reste pas en permanence,
ironisa Shallan, qui tourna une page sans lever les yeux.
J'imagine que ce serait extrêmement pénible.
En même temps, j'y vois bien une utilité possible,
répondit Gaz.
Tous deux se tournèrent vers lui. Il haussa les épaules.
Je disais ça comme ça, c'est pas...
Red éclata de rire et lui asséna une tape sur l'épaule. « Je vais chercher à manger. Je vous aiderai à trouver cette charnière après. » Gaz hocha la tête, mais jeta de nouveau un coup d'œil sur le côté. Toujours ce tic nerveux. Et ne rejoignit pas Red quand ce dernier se dirigea vers le chaudron du dîner. À la place, il s'assit pour poncer le sol du chariot de Shallan, là où le bois commençait à se fendre. Elle reposa le carnet dans lequel elle avait tenté de concevoir des solutions pour aider ses frères. C'est-à-dire, à peu près toutes les options entre essayer d'acheter l'un des spiricantes du roi Aleti pour localiser les sangs des spectres et détourner leur attention d'une manière ou d'une autre. Elle ne pouvait cependant rien faire avant d'atteindre les plaines brisées. Et alors, la plupart de ses plans nécessiteraient qu'elle ait de puissants alliés. Shallan devait faire en sorte que les fiançailles avec Adeline Colleen soient menées à terme. Pas simplement pour sa propre famille, mais pour le bien du monde. Shallan aurait besoin des alliés et des ressources que cette union lui assurerait. Mais si elle n'y parvenait pas? Si elle ne réussissait pas à rallier la clarissime Navani à ses côtés? Elle aurait peut-être besoin de poursuivre sa quête d'Orithirou et de se préparer pour les néantifères toute seule. Cette idée la terrifiait, mais elle voulait être prête. Elle sortit un autre livre, l'un des rares de la pile de Jasna qui ne décrivait pas les néantifères ni la légendaire Orithirou. Il passait plutôt en revue les hauts princes Aleti actuels et décrivait leurs manœuvres politiques et leurs objectifs. Shallan devait être informée. Elle devait connaître le paysage politique de la cour Aleti. Elle ne pouvait pas se permettre de rester dans l'ignorance. Elle devait savoir qui, parmi ces gens, pouvait devenir un allié potentiel si tout le reste échouait. Et ce Sadeas ? Se demanda-t-elle en tournant une page du carnet. Jasna l'y décrivait comme manipulateur et dangereux, mais lui reconnaissait ainsi qu'à son épouse une grande vivacité d'esprit. Peut-être un homme intelligent écouterait-il et comprendrait-il les arguments de Shallan. Aladar était cité comme un autre haut prince que Jasna respectait, puissant, connu pour ses manœuvres politiques brillantes. Il appréciait également les jeux de hasard. Peut-être oserait-il tenter une expédition pour trouver Orithirou, si Shallan mettait en avant les richesses potentielles à y découvrir. Atam était cité comme un homme à la politique délicate et aux planifications soigneuses. Encore un allié potentiel. Jasna n'avait pas une très haute estime de Tanadal, Betad ou Sébarial. Elle qualifiait le premier de mielleux, le second d'aussi stupide qu'une sphère éteinte et le troisième d'outrageusement grossier. Elle les étudia un moment, ainsi que leur motivation. Enfin, Gaz se leva et épousta son pantalon. Il la salua d'un signe de tête respectueux et s'en alla chercher à manger.
« Un instant, maître Gaz !» lui dit-elle.
« Ne m'appelez pas maître, clarissime !»
répondit-il en se dirigeant vers elle.
« Je ne suis que du sixième nan. Jamais pu m'acheter mieux que ça !»
« Quelle est l'étendue exacte de vos dettes ?» demanda-t-elle en piochant des sphères dans sa sage bourse pour les placer dans le gobelet sur son bureau.
« Ben, l'un des gars à qui je devais de l'argent a été exécuté, »
expliqua-t-il en se frottant le menton.
« Mais il y en a d'autres. »
Il hésita.
« 80 bromes de rubis, clarissime. Cela dit, ils ne les accepteraient peut-être pas. C'est à ma tête qu'ils en veulent ces jours-ci. »
« Une dette conséquente pour un homme comme vous. Êtes-vous un joueur dans ce cas ?»«
Ça fait aucune différence, » répliqua-t-il. « On va dire ça. »
« Et vous mentez ?» lança-t-elle en inclinant la tête sur le côté. « Je suis capable de voir quand vous le faites, Gaz. »«
Livrez-moi à eux de toute manière, »
répondit-il en se détournant pour se diriger vers la soupe.
« Aucune importance. Je préférerais encore ça que d'être ici à me demander quand ils vont me retrouver. »
Shallan le regarda s'éloigner, puis secoua la tête et revint à ses recherches. Elle affirme qu'Orithirou ne se trouve pas dans les plaines brisées, songea Shallan en tournant quelques pages. Mais en est-elle sûre? Les plaines n'ont jamais été entièrement explorées à cause des gouffres. Qui sait ce qui s'y trouve? Fort heureusement, Jasna avait laissé des notes très complètes. La plupart des documents anciens semblaient situés Orithirou dans les montagnes. Les plaines brisées se trouvaient dans une cuvette. Noadon pouvait s'y rendre à pied, se dit Shallan en lisant une citation de la Voix des Rois. Jasna remettait en question la validité de cette affirmation, mais Jasna contestait à peu près tout. Au bout d'une heure de recherche, alors que le soleil descendait dans le ciel,
Shallan se retrouva en train de se masser les tempes.
« Tout va bien ?»
demanda Motif tout bas. Il aimait sortir lorsqu'il faisait plus sombre, et elle ne le lui interdisait pas. Elle le localisa sur la table, formation complexe de relief sur le bois.
« Les historiennes, » déclara Shallan, « sont une bande de menteuses.
» répondit Motif d'un air satisfait.
Ce n'était pas un compliment.
« Ah !»
Shallan referma d'un coup sec le livre qu'elle était en train de parcourir.
Ces femmes étaient censées être des érudites. Au lieu de consigner les faits, elles rédigeaient des opinions et les présentaient comme des vérités. Elles semblent se donner beaucoup de mal pour se contredire entre elles et contournent des sujets d'importance comme les sprennes contournent le feu. Elles ne fournissent jamais de chaleur elles-mêmes, mais elles en font étalage.
Motif bourdonna.
La vérité est individuelle.
Pardon ? Pas du tout. La vérité est... C'est la vérité. La réalité.
Ta vérité est ce que tu vois, répondit Motif, l'air perdu. Que pourrait-elle être d'autre ? C'est là la vérité dont tu m'as parlé, celle qui apporte le pouvoir.
Elle se tourna vers lui, regarda ses reliefs qui projetaient des ombres à la lumière des sphères. Elle les avait renouvelés lors de la tempête majeure de la veille, alors qu'elle était enfermée dans la boîte qui lui servait de chariot. Motif s'était mis à vibrer au milieu de la tempête. Un bruit étrange, furieux. Après quoi, il avait commencé à monologuer furieusement dans une langue qu'elle ne comprenait pas, à la grande panique de Gaz et des autres soldats qu'elle avait invités dans son abri. Fort heureusement, il tenait pour acquis qu'il se passait des choses effroyables pendant les tempêtes majeures, et aucun d'entre eux n'en avait reparlé depuis.
« Idiote !» se dit-elle en tournant une page vide. « Commence à te comporter en érudite. Jasna serait déçue. »
Elle inscrivit ce que Motif venait de lui dire.
« Motif !»
lança-t-elle en tapotant son crayon, qu'elle s'était procuré auprès des commerçants ainsi que du papier. « Cette table à quatre pieds. Ne dirais-tu pas que c'est une vérité, indépendamment de ma perspective ?» Motif vibra d'un air hésitant.
« Qu'est-ce qu'un pied ? Seulement ce que vous avez défini. Sans perspective, il n'existe rien de tel qu'un pied ou une table. Rien que du bois. »
Tu m'as dit que la table se percevait elle-même de cette manière.
Parce que des gens l'ont considérée assez longtemps comme étant une table, précisa Motif. Ça devient la vérité de cette table, à travers celle que les gens créent pour elle.
Intéressant,
nota Shallan tout en griffonnant dans son carnet. Elle n'était, pour l'heure, pas tant concentrée sur la nature de la vérité que sur la perception qu'en avait Motif. Est-ce parce qu'il provient du royaume cognitif ? Les livres décrivent le royaume spirituel comme un endroit de vérité pure, tandis que le cognitif serait plus fluide.
« Les sprennes, » reprit-elle. « Si les gens n'étaient pas là, les sprennes seraient-ils doués de penser ?»«
Pas ici, dans ce royaume, » répondit-il. « Je ne sais pas ce qu'il en est de l'autre royaume. »«
Tu n'as pas l'air inquiet, » observa-t-elle. « Ton existence tout entière dépend peut-être des gens. »
« En effet, » acquiesça-t-il. Tout aussi calmement. Mais les enfants dépendent de leurs parents.
Il hésita.
Et puis, il y en a d'autres qui pensent.
Les néantifères, déclara Shallan, soudain traversé d'un grand froid.
Oui. Je ne crois pas que mes semblables vivraient dans un monde qu'ils seraient les seuls à peupler. Ils ont leurs propres sprennes.
Shallan se redressa brusquement.
Leurs propres sprennes ?
Motif rétrécit sur sa table, se replia sur lui-même, et ses reliefs se firent moins nets lorsqu'ils s'écrasèrent sur eux-mêmes.
« Alors ?»
insista Shallan.
« Nous n'en parlons pas. »«
Tu devrais peut-être commencer, » lui dit Shallan. « C'est important. »
Motif bourdonna. Elle crut qu'il allait s'obstiner dans le silence, mais au bout d'un moment, il poursuivit d'une toute petite voix.
« Les sprennes sont le pouvoir brisé en éclats. Le pouvoir auquel les perceptions des hommes ont accordé la pensée. Honneur, culture et... un autre. Des fragments détachés.
Un autre ? Insista Shallan. Le bourdonnement de Motif se changea en une plainte stridente, si aiguë qu'elle ne l'entendait presque plus.
Abjection !
Il prononça ce mot comme s'il avait besoin de l'expulser. Shallan écrivit furieusement.
Abjection. En famille. Un type de Spren? Peut-être un spécimen unique et très grand, comme Cousy Sejdiri ou la veille nuit? Un Spren d'infamie? Elle n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Tandis qu'elle écrivait, l'un de ses esclaves approcha dans la nuit naissante. Timoré, il portait une tunique très simple ainsi qu'un pantalon, l'un des ensembles que les commerçants avaient donné à Shallan. Ce présent était le bienvenu, car les dernières sphères de Shallan se trouvaient dans le gobelet devant elle et ne suffiraient pas à acheter un repas auprès des meilleurs restaurants de Carbrandt.
Clarissime ?
Oui, Suna ?
Il
tendit le doigt.
L'autre dame, elle m'a demandé de vous dire...
Il désignait la tante utilisée par Tine, la femme de haute taille qui commandait aux quelques gardes restants de la caravane. « Elle veut que j'aille la voir ?» demanda Shallan.
« Oui, »
acquiesça Suna.
« Pour la nourriture, j'imagine. »«
Merci, Suna, » répondit Shallan, qui l'autorisa à retourner auprès du feu, où il aidait à la cuisine en compagnie des autres esclaves, tandis que les parches rassemblaient du bois. Les esclaves de Shallan étaient un groupe silencieux. Ils arboraient des tatouages sur le front au lieu de marques au fer rouge. C'était une méthode plus clémente qui désignait généralement une personne entrée en esclavage de son propre gré plutôt que contrainte en guise de châtiment pour un crime affreux ou violent. Il s'agissait là d'hommes endettés ou d'enfants d'esclaves qui portaient toujours la dette de leurs parents. Ils étaient habitués à travailler dur et semblaient effrayés par l'idée du salaire qu'elle leur versait. Aussi dérisoire que soit cette somme, elle permettait à la plupart d'être libres d'ici moins de 2 ans. Cette idée les perturbait visiblement. Shallan secoua la tête et rangea ses affaires. Alors qu'elle se dirigeait vers la tente de Tine, elle s'arrêta près du feu pour demander à Red de rapporter sa table dans le chariot et de l'y fixer. Elle s'inquiétait toujours pour ses affaires, mais elle ne conservait plus de sphère à l'intérieur du chariot et l'avait laissé ouvert de sorte que Red et Gaz puissent jeter un coup d'œil à l'intérieur et n'y voir que des livres. Avec un peu de chance, personne ne serait tenté de les fouiller.
« Toi aussi, tu contournes la vérité », se dit-elle en s'éloignant du feu,
exactement comme ces historiennes contre lesquelles tu fulminais. Elle traitait ces hommes comme s'ils étaient des héros, mais ne se faisait aucune illusion quant à la vitesse à laquelle ils retourneraient leurs vestes dans les mauvaises circonstances.